L'évangile de Marc, chapitre 6, les versets 30 à 34. Marc, chapitre 6, versets 30 à 34. Au nom de Jésus. Les apôtres revinrent auprès de Jésus, on lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Les gens qui arrivaient et s'en allaient étaient si nombreux que Jésus et ses disciples n'avaient même pas le temps de manger. C'est pourquoi il leur dit « Venez avec moi dans un endroit isolé pour vous reposer un moment. » Ils partirent donc dans la barque, seuls, vers un endroit isolé. Mais beaucoup de gens les virent et s'en allaient et les reconnurent. Ils accoururent alors de toutes les villes et arrivèrent à pied à cet endroit avant Jésus et ses disciples. Quand Jésus sortit de la barque, il vit cette grande foule. Son cœur fut rempli de pitié pour ces gens parce qu'ils ressemblaient à un troupeau qui n'a pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Amen. Tout d'abord, je tiens à attirer votre attention que la péricope que nous avons ici est la première partie du récit où Jésus nourrit 5000 hommes. La deuxième partie, on verra ça dimanche prochain. Mais aujourd'hui, c'est la première partie. Et souvent, on ne remarque pas trop cette première partie-là, car ce qui nous intéresse tout de suite, nous les lecteurs de la Bible, c'est cette histoire de multiplication des pains, tellement spectaculaire. Et donc, on lit un peu trop vite et on fait une lecture un peu diagonale en passant par ces quatre versets. Mais je trouve que ceux qui ont fait le lectionnaire ont bien fait de mettre en valeur aujourd'hui cette première partie pour que nous puissions un peu se pencher sur ce texte intéressant. Je reprends l'histoire. Jésus appelle ses disciples d'aller dans un lieu désert pour pouvoir se reposer et manger. Tiens, tiens, le Christ a besoin de se reposer ? De manger, oui, c'est ce qui est écrit. Quelque chose de plus banal, comme tout n'importe quel être humain. Et c'est très intéressant de voir que le Christ est comme n'importe quel être humain. Oui, il a besoin aussi de vacances, comme nous. Il pouvait être fatigué comme nous. Il pouvait avoir faim comme nous. Il pouvait avoir soif comme nous, comme il était devant la femme samaritaine, « Donne-moi à boire. » Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le bateau pour chercher un endroit plus calme. Un peu comme nous qui avons besoin d'un moment de répit aussi. Mais, hélas, quand ils arrivèrent à l'endroit où ils voulaient se reposer, à leur grande surprise, il y avait déjà de la foule qui les attendait. Parce que le bruit courait que le Christ est de l'autre côté. Et la foule est arrivée avant lui. Le programme tombe à l'eau. Il devait assumer. Quelle était la réaction de Jésus en voyant cette foule qui s'amassait là? Il en fut ému. Et alors, dans la façon dont Marc raconte le récit, il en fut ému qu'il s'est mis à enseigner. C'est ça la conséquence de l'émotion. Le Christ est ému, alors il enseigne. Regardez bien le jeu de mots fait par Marc ici. Jésus avait faim, c'est-à-dire, on parle de l'estomac, qu'il avait décidé de prendre le large avec ses disciples, mais par la suite, il en fut ému. Dans le texte grec, ému signifie littéralement, il a subi un déplacement, un bouleversement de tous ses entrailles. C'est-à-dire, dans l'anthropologie juive, quand on parle des entrailles, le cœur, les poumons, le foie et le rein, tout ça a été bouleversé. Et nous savons tous, bien sûr, l'expression « avoir la boule au ventre ». On peut donc dire qu'on assiste là à deux sortes de faim. Deux faims. La première, la faim normale. Jésus avait faim. Il voulait se reposer. Et les deux sont réels. Mais si on regarde bien le récit, nous pouvons constater que la deuxième faim a pris le dessus, c'est-à-dire le Christ qui est ému. Elle est plus forte que la première. Et je tiens à lire un texte parallèle dans l'évangile de Jean, chapitre 4, qui parle un peu de la même chose, mais sous une autre forme. Jean, chapitre 4, versets 31 à 35. Au nom de Jésus. Pendant ce temps, les disciples priaient Jésus de manger. « Maître, mange quelque chose, disait-il. » Mais il leur répondit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et les disciples se demandèrent alors les uns et les autres, « Mais quelqu'un a-t-il apporté de la nourriture ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est d'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever le travail qu'il m'a donné à faire. » Dans cette histoire, les disciples de Jésus sont partis au marché pour acheter du pain, de la nourriture, en ville. Pendant ce moment, le Christ se reposait parce qu'il était fatigué au bord d'un puits. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant l'attente? Une femme samaritaine arriva. Elle avait soif aussi. Quelle coïncidence, le Christ a faim, il s'assied là, et une femme aussi a soif, qui vient là. Pendant ce court moment où il y avait cette histoire. Jésus se reposait car il avait faim et la femme aussi est venue là parce qu'elle avait soif. Pendant leur discussion, Jésus a oublié sa faim. En fait, cette faim a été moins importante que la deuxième car il dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Je pense qu'ici nous pouvons constater l'opposé de la fameuse phrase que nous aimons tous. Parfois, on se refuge derrière cette phrase dans Marc 14, 38. L'esprit est ardent, mais la chair est... Non, ici, c'est le contraire. Le diktat de la chair, nous la connaissons très bien, mais par ce récit, Jésus nous donne une autre réalité. Il ne néglige pas la faiblesse de la chair, non? Il connaît la réalité de la chair qui pourrait être encore dépassée, cette réalité de la chair, par la compassion du Christ envers ses brebis. Toutes ses entrailles sont bouleversées en voyant la foule livrée à eux-mêmes parce qu'ils n'avaient pas de berger. Il a en quelque sorte oublié sa faim, ou plus exactement, il a mis en priorité la faim de la foule, qui, signalons-le, avait faim de la parole de Dieu. Car Jésus les a enseignés, et après le récit, dans la deuxième partie, il les a donnés à manger, à ces 5000 hommes. Alors, dans ce texte, la faim collective prend le dessus sur la faim individuelle du Christ, car si nous continuons la lecture de notre texte, rappelez-vous dans l'histoire de la multiplication de la faim, il y avait un petit garçon qui a proposé de donner ses 5 pains et les 3 poissons qu'il avait avec lui. Ce garçon avait aussi faim s'il avait ça avec lui, n'est-ce pas? Il avait faim comme tout le monde, mais il a donné ce qu'il avait pour sauver tout le monde. La faim collective est la priorité que la faim individuelle. Voilà le message pour nous aujourd'hui. Et malheureusement, dans ce monde, c'est l'inverse qui est la règle d'or. Sers-toi d'abord, en premier, avant de penser aux autres. Paul le dit aussi dans son épître aux Philippiens, « Leur Dieu, c'est leur ventre. » Je trouve que cette phrase de Paul est très moderne. C'est la vie d'aujourd'hui. Le nouveau Dieu qui terrorise le monde aujourd'hui, c'est leur ventre, leur égoïsme. Et dans d'autres endroits, Paul tourne cette phrase de façon encore plus dure. Ils sont esclaves de leur ventre. C'est Paul qui le dit. Le modèle alléchant que le monde nous propose est complètement à l'opposé de ce que Jésus présente ici. De quoi s'agit-il? L'égoïsme, paraît-il, selon certains économistes, philosophes, permet une société stable, selon la fable des abbayes de Mandeville. Cette histoire, cette fable qui a été exploitée par plusieurs économistes plus tard. Et là, je reprends les phrases d'un philosophe contemporain qui se dit philosophe, prof en philosophie, en France, Raphaël Eindhoven. Il a repris cette fable, je vais vous lire cette phrase que je trouve interpellante. Les abeilles ne pensent qu'à elles-mêmes. Elles ne s'intéressent en autrui qu'à la partie d'autrui qui a de l'intérêt pour elles. Elles se méprisent entre elles en s'entraidant. Une société paradoxalement en équilibre où la force des uns se repose sur la faiblesse des autres. C'est ça les abeilles. Le luxe repose sur la pauvreté. La fourberie repose sur la naïveté. Le vide produit la ruse. La ruse produit l'industrie. Et l'industrie pourvoit aux commodités de la vie. Les pauvres même vivent plus agréablement que les riches ne le faisaient qu'auparavant. Je ferme la parenthèse. Ça, c'est la théorie de Bernard Mandeville. L'égoïsme, selon lui, est la condition de la prospérité. Si tu veux donner à tout le monde, il faut que tu sois d'abord riche. Mais la philosophie de vie de Jésus est complètement à l'opposé de cela. Car il s'est privé d'abord de nourriture. Il devrait se reposer, il devrait manger. Mais il s'est privé de nourriture pendant quelques moments pour venir en aide à cette foule qui avait tellement faim de beaucoup de choses, pas seulement de nourriture, bien sûr, mais de la parole de Dieu. En d'autres termes, la faim du Christ était au service de la faim de la foule. Dans les évangiles, nous pouvons relever qu'à deux reprises, si vous lisez bien les évangiles, à deux reprises, Jésus avait faim. Mais dans ces deux récits, sa faim passait après la faim des autres. À un certain moment, les pharisiens reprochaient à Jésus et disaient à ses disciples « Pourquoi votre maître n'observe-t-il pas le jeûne selon la tradition religieuse juive ?» Mais la conception du jeûne entre Jésus et les anciens d'Israël est complètement différente. Pour les hommes religieux, le jeûne était une obligation religieuse à remplir comme étant des conditions nécessaires, comme les cinq piliers de l'islam. Tu dois jeûner, telle est la loi de Dieu. C'était une exigence. Mais pour Jésus, il maintient ce qui a été déjà annoncé dans l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 58, verset 3. Ne s'agit-il pas de partager ton pain avec celui qui a faim et de ramener à la maison les pauvres sans abri, de couvrir celui que tu vois nu et de ne pas t'esquiver devant celui qui est ta propre chair. Voilà le vrai jeûne pour Jésus. Pour Jésus, le jeûne, c'est une pratique de vie, mais pas une loi religieuse. Ce n'est pas une pratique religieuse, c'est une pratique. C'est l'amour, c'est partager son pain, c'est ça, jeûner pour le Christ. Au lieu de prendre mon pain aujourd'hui, je le donne à celui qui a faim à côté de moi. C'est ça, le jeûne que Dieu attend de ses serviteurs. À quoi ça sert de jeûner en ayant tout un congélateur plein à craquer? Ça n'a aucun sens. En somme, nous pouvons voir ici, dans notre texte, Jésus qui est à la fois fatigué, qui a faim et soif, mais aussi on peut constater un Jésus infatigable d'amour pour ses prochains. Et avant de clore ma méditation, j'aimerais alors vous inviter à venir avec moi au pied de la croix de Jésus en scrutant les dernières paroles de Jésus, les deux dernières phrases. J'ai soif. Et juste après, il a dit, tout est accompli. Intéressant. C'est un peu paradoxal. Le Christ a tout donné. Et voilà, quelle fin tragique. Il dit, j'ai soif et il meurt. Ça veut dire, il faut que nous donnions une réponse à cette question. J'ai soif. Et qu'est-ce que tu vas faire? Quelle est cette soif que Dieu a en quittant ce monde? Voilà, tout le message du Christ est là. Tout est là, tout est parfait, mais le Christ a soif. Le Christ a faim de quelque chose, je ne sais pas de quoi, mais il a faim. Un Dieu qui nous demande quelque chose, c'est aberrant. C'est impossible qu'un Dieu demande quelque chose. Mais il a tout ce qu'il a. Il a le pouvoir dans le ciel et sur le... Pourquoi il nous demande quelque chose? Peux-tu lui rassasier? Peux-tu répondre à cet appel aujourd'hui? J'ai soif. Pas pour lui, mais pour les autres. Pour celui qui est autour de toi. Il y a beaucoup de soif autour de nous. Il y a beaucoup de famine autour de nous. Pas simplement sur le plan matériel. Des gens pauvres en esprit. Des gens qui courent vers leur perte. Le Seigneur a dit, regarde ma soif autour de toi. Regarde ma faim autour de toi. Et on vient de le lire dans le texte de Jérémie, que ce sont des brebis qui n'ont pas de berger. Et c'est toi que le Seigneur attend de les ramener chez lui. Amen.